Frères et sœurs bien-aimés, en ce jour de la Toussaint, nous contemplons avec toute l'Église ceux qui, immédiatement après leur mort, sont entrés en âme dans la gloire du ciel. Dans ce cortège admirable des saints se trouvent les grandes figures de sainteté, à l'image de saint André, apôtre, notre patron, à l'image de saint Justin, qui a fini sa vie à Cerse, premier évêque de Bigorre, de qui nous avons reçu la foi et à partir duquel la vie de la grâce par le baptême coule en nous. À la suite de ce cortège admirable des saints, il y a bien sûr saint Savin, il y a bien sûr sainte Bernadette Soubirous, et au milieu de toutes ces figures qui nous sont connues et qui nous sont par l'Église données en exemple, se trouve également un certain nombre de saints anonymes de nos familles qui, en raison de leur vie vertueuse, en raison de leur vie de prière et de contemplation, en raison de tout ce qu'ils ont pu subir, vivre dans l'action de grâce, le bon Dieu leur a dit immédiatement, lorsqu'en âme ils sont arrivés aux portes du ciel, « Entrez maintenant, bon et fidèle serviteur, recevez donc la couronne et entrez dans la joie de votre Maître. » Nous contemplons le cortège admirable des saints qui nous dit qu'il nous est possible de suivre notre Seigneur Jésus le Christ. À la fin de ce jour, après avoir contemplé la lumière glorieuse du ciel et des saints qui prient avec nous pour nos défunts, qui prient pour nous ici-bas sur la terre, nous porterons le souvenir ému de tous nos fidèles défunts. Alors la prière de l'Église redoublera d'ardeur en célébrant les messes, en bénissant les tombes, c'est-à-dire en faisant couler l'eau bénite en souvenir du baptême. Il ne s'agit pas seulement d'hommes et de femmes, il s'agit pour nous de parents, mais il s'agit également d'enfants de Dieu. Et au dernier jour, le bon Dieu qui accueille les fidèles défunts en âme au ciel promet la résurrection de la chair. Comme l'affirme saint Luc dans son évangile, nous sommes chacun enfants de la résurrection. Aux côtés de ce cortège admirable des saints, il y a, en cette année sainte 2025, une grande grâce qui nous vient forcément du ciel en raison de la béatification prochaine de l'un des nôtres, un des fils de notre Bigorre et même davantage un des fils de notre vallée d'Égave, l'abbé Pascal Vergès, sera béatifié le 13 décembre à Notre-Dame de Paris, aux côtés de 49 autres prêtres pour la plupart qui ont été martyrisés durant l'occupation dans les camps de concentration ou les camps de travaux forcés. Et alors que nous contemplons le cortège admirable des saints, je voudrais vous parler en ce jour de ce cher abbé Vergès. Il est né à Aucun le 17 mars 1910 et fut baptisé par son curé le 3 avril de la même année. Son père, Jules Vergès, était gendarme ici, en notre brigade de Lu-Saint-Sauveur. Sa mère, Marie, faisait des ménages, s'occupait de la maison et en particulier du jardin. C'est le docteur Cazette, qui était alors médecin à Lu-Saint-Sauveur, qui faisait ses visites à Aucun et qui dit qu'il va porter l'antienne au père à la brigade de Lu-Saint-Sauveur, ayant aidé à l'accouchement. Voilà donc notre jeune Pascal Vergès qui va vivre une vie toute simple, une vie familiale. Il va connaître non seulement la Première Guerre mondiale, et attendra du coup enfant, avec les prières instantes à l'Église pour tous ceux qui sont partis au front, la possibilité d'enfin aller de Aucun à Lourdes. Et c'est sous la conduite de son curé, en compagnie de ses parents, eh bien, qu'il se rendra le 8 décembre 1918 en la cité de Massabielle. Il avait tant entendu parler des apparitions de la bouche de son curé, il voyait tant de dévotion à Notre-Dame de Lourdes et à Sainte Bernadette qu'il connaissait, que sa joie fut grande de pouvoir se recueillir silencieux à la grotte de Massabielle. C'est en notre église de Lus-Saint-Sauveur, le 19 mai 1921, qu'il reçut des mains de Monseigneur l'évêque le sacrement de la confirmation. C'est ici que l'évêque lui donna la tape, qui est l'image décisive de l'engagement de vie chrétien. Il s'agit pour nous qui avons reçu le sacrement de confirmation de ne jamais rougir du nom de Dieu, de notre appartenance à l'Église, de notre observance de la loi naturelle et des lois de l'Église pour nous conduire au ciel. C'est au jour de sa confirmation, dira-t-il, en notre chère Église, Saint-André de Luz, eh bien qu'il sentit véritablement l'appel décisif de sa vocation. Il entrera alors au séminaire et voilà que notre cher abbé Vergès sera donc ordonné sous-diacre, diacre, puis prêtre le 2 juillet 1935 en notre cathédrale Notre-Dame de la Cède de Tarbes, où il célébra le lendemain, entouré de sa famille, sa première messe. On imagine aussi la joie des habitants d'Aucun, accueillant le nouveau et jeune prêtre dans leur village. Avant cela, il a effectué, comme chacun à son temps-là, son service militaire à Brive-la-Gaillarde, au 126e régiment d'infanterie. Son premier ministère, qu'on lui a demandé, c'était d'être professeur de français et de latin, discipline où il excella, au petit séminaire de Saint-Pé. Mais voilà que les étés, puisqu'il n'y avait pas les pensionnaires, il montait ici et prêchait notamment à Saint-Sauveur pour les touristes, peut-être qu'on aurait dit seulement curistes en ce temps-là. En 1939, en septembre, voilà que son régiment est appelé et que donc l'abbé Vergès répond à l'appel des drapeaux. Il rejoint donc son régiment et il sera fait prisonnier en 1941 au Stalag 4 à Mühlberg-sur-Elbe. Vous m'excuserez, j'ai beaucoup de mal à prononcer l'allemand. En décembre 1941, il est employé à la Bunnerwerk à Schkopau, où il devint aumônier de son commando. Présent à tous, il s'efforce d'exercer son ministère, à l'image des béatitudes que nous venons d'entendre. Eh bien voilà notre jeune abbé Vergès qui est là pour consoler ceux qui pleurent leur patrie, et il en est le premier d'entre eux, ceux qui pleurent leur famille dont ils sont séparés, les camarades fusillés ou tous ceux qui sont tombés au champ d'honneur. Avec sa douceur, on peut entendre le Seigneur nous dire « Heureux les doux », car il s'est efforcé, malgré les travaux forcés, d'être toujours l'oreille disponible pour entendre les confessions, pour s'efforcer également le dimanche de pouvoir célébrer la Sainte Messe. Il a subi un grand nombre de brimades dans ses différents camps parce qu'il était identifié comme prêtre. Eh bien voilà que nous entendons le Seigneur nous dire « Heureux si l'on vous insulte, si l'on vous persécute, si l'on dit faussement toutes sortes de mal contre vous à cause de moi ». Voilà ce qu'a vécu l'abbé Vergès. Cette identification au Christ dans cette vie toute simple, lorsque l'on peut lire les témoignages de ses professeurs à Saint-Pé ou de tous ceux qui l'ont connu et rencontré, il parle bien sûr de sa douceur, de sa réserve, à l'image de la première des béatitudes, « Heureux les pauvres de cœur, le royaume des cieux est à eux ». En application du décret nazi du 3 décembre 1943 contre l'action catholique française parmi les travailleurs français en Allemagne nazie, il est arrêté le 20 septembre 1944 à la baraque des chimistes à la Bunnerwerk de Schkopau-Meserbourg. Il est amené à la Gestapo de Halle il est condamné. Condamné pour avoir dit la messe, pour avoir dit la messe sans toutes les autorisations et avoir fait de la propagande religieuse, c'est-à-dire avoir accepté d'être prêtre au milieu de ce camp, distribuant les sacrements et s'efforçant d'encourager tous ces prisonniers qui étaient habités par l'amour de Dieu pour une bonne part d'entre eux, mais aussi et surtout par l'amour de la patrie. Il est donc envoyé le 21 novembre au camp disciplinaire de Spergo, puis transféré à Sachsen. Il décède le 12 décembre 1944, atteint de typhus et après, à l'imitation de notre Seigneur en sa passion, des séances horribles de flagellation. L'Allemagne nazie suspectait qu'en tant que prêtre, il était forcément un espion du Saint-Siège ou de la résistance française. Je voudrais vous lire les derniers instants de sa vie. Dans cette infirmerie, notre jeune abbé, eh bien, atteint de son typhus, avait d'innombrables quintes de toux. Il rencontra un jeune Allemand, Steiner, qui avait blessé un jeune nazi au cours d'une manifestation à Leipzig. Ils s'étaient donc rencontrés au moment de leur arrestation et voilà qu'ils se retrouvent tous deux dans ce qui tient lieu d'infirmerie. Nous sommes donc à l'aube du 19 décembre 1944. Du bloc 4 de l'infirmerie situé au milieu du camp s'élevaient donc bien des gémissements parce que Steiner avait la jambe brisée. Il l'avait eu quelques jours auparavant et n'avait été soigné, bien sûr, par personne. Malgré son extrême faiblesse et sa toux incessante, voilà que l'abbé Vergès essaya de se lever pour apaiser les souffrances de son voisin. Il se leva de son lit, plutôt de sa paillasse, et après de grands efforts, réussit tout simplement, à travers un linge trempé dans un peu d'eau froide que l'on leur avait laissé pour boire, il s'efforça d'entourer sa jambe. Marqué par cet ultime effort, et puis dans une quinte de toux déchirante, l'abbé Pascal Vergès essaya de regagner son lit, mais son état ne lui permit pas. Et comme dans un geste d'adoration, son corps frêle se plia, s'agenouillant, et s'affaissa alors sur le sol. Voilà que l'abbé Pascal Vergès venait de s'endormir à jamais, retrouvant celui à qui il avait consacré sa vie. Et Mgr Perrier, qui préface la petite brochure que l'on pourra bientôt se procurer, qui nous raconte son enfance et sa vie, son court ministère, conclut en disant « Il est beau que le dernier geste de l'abbé Pascal Vergès ait été un acte de charité envers son voisin d'infirmerie, son prochain du moment. La charité ne passera jamais », conclut Mgr Perrier, notre évêque. Il est donc heureux, frères et sœurs, qu'après la béatification et la canonisation de Sainte Bernadette, le cortège innombrable des saints compte un Bigourdan de plus, un enfant de notre terre et de notre pays, qui a su, par sa vie si brève, 34 ans, un an de plus selon la tradition, que notre Seigneur Jésus le Christ put s'identifier au Christ, s'efforça de vivre son ministère sacerdotal de la façon la plus simple, de la façon aussi la plus digne. Lorsque l'on le mit en terre, il n'y a eu aucune sépulture chrétienne. Ce n'est qu'après, à la libération, qu'on vient planter une croix sur sa tombe et qu'ensuite, en souvenir de son héroïsme, eh bien, on vient y déposer une marque du drapeau français. Il est donc heureux de savoir, en ce jour de la Toussaint, que nous avons un autre grand frère qui intercède pour nous. Et pour nous, membres du pays Toy, nous voyons la tâche qu'il y a confirmée en cette Église. Voilà qu'il a vécu ce sacrement de confirmation jusqu'au bout. Il nous est demandé eh bien, de ne pas rougir du nom de Christ et d'être les soldats de son œuvre d'amour et de miséricorde. Voilà comment l'abbé Vergès tomba comme le Seigneur en sa passion, et le Seigneur lui dit alors, comme dans la parabole, « Entrez maintenant, jeune abbé, dans la joie de votre maître. » Puisse donc l'abbé Vergès, qui sera béatifié à Notre-Dame de Paris, prier, intercéder pour nous. Comme le disait Monseigneur l'évêque, c'est une immense grâce pour notre presbytérium que de voir ainsi l'un des fils de notre Église porté à la gloire des autels. Nous lui demandons eh bien, de faire en sorte que cette foi reçue de Saint Justin ne s'éteigne pas chez nous, qu'il prenne chacune de nos familles, chacun de nos malades en pitié. Et parce qu'il va être béatifié et que le ciel va devoir manifester sa canonisation par quelques miracles, nous aurons à cœur de beaucoup lui demander son intercession pour nos malades, pour notre France, pour notre monde et pour notre Église. Heureux les artisans de paix, heureux les affamés et assoiffés de justice, avons-nous entendu. Voilà tout ce qu'a vécu l'abbé Vergès, et voilà tout ce que nous sommes appelés à vivre, chacun selon nos états, selon les temps où le Seigneur nous a placés. Puisse la bienheureuse Vierge Marie, Notre-Dame des As, nous bénir chacun, bénir et soutenir nos familles ici-bas sur la terre, comme bénir et soutenir en mer de miséricorde tous nos fidèles défunts, pour qu'ils reposent dans la paix. Ainsi soit-il.